Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de prédications sur l'évangile de Marc. Et dans le texte dans ce qui précède le texte que nous méditerons ce matin, Marc relate le début du ministère de Jésus, sa rencontre avec Jean-Baptiste, sa tentation dans le désert, l'appel des quatre premiers disciples, Simon, André, Jacques et Jean, les premières guérisons, les premiers exorcismes. Et ces guérisons miraculeuses ont eu pour conséquence, entre autres, d'accroître la renommée de Jésus qui ne peut plus se déplacer sans être suivi par une foule immense. Et au moment où commence notre texte, Jésus vient de guérir un paralytique que ses amis ont amené, vous vous rappelez, en démontant le toit. Je vous invite tout de suite à la lecture du texte qui nous retiendra ce matin. Je le lis dans la version du semeur. Une nouvelle fois, Jésus s'en alla du côté du lac. Les foules venaient à sa rencontre et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, installé à son poste de péage, et il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était reçu pour un repas dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs notoires prirent place à table avec ses disciples et avec lui, car ils étaient nombreux à le suivre. En voyant qu'il mangeait avec ses pêcheurs notoires et ses collecteurs d'impôts, les spécialistes de la loi qui appartenaient au parti des pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger avec ses collecteurs d'impôts et ses pêcheurs ?» Ah, pardon, c'est le mauvais sens. Jésus, qui les avait entendus, leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Un jour que les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, ils vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font ?» Jésus leur répondit « Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le temps viendra où il leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. » Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve. Sinon, la pièce rapportée tire sur la vieille étoffe et en arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. De même, personne ne verse du vin qui fermente encore dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau les fait éclater. Et voilà le vin perdu, et les outres aussi. À vin nouveau, outre neuve. Jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu pour aujourd'hui. Alors, je vous propose un pan très simple. On va distinguer deux parties dans ce texte. Les versets 13 à 17, où Jésus est en compagnie des publicains, suivant les versions, on trouve les péagers, les collecteurs d'impôts. Puis la deuxième partie, des versets 18 à 22, où les pharisiens interrogent Jésus sur le non-respect du jeûne. Pardon. Je mélange un peu entre les deux choses. Ce texte commence donc par une rencontre. Jésus passe devant le bureau d'un publicain, Lévi, qu'on appellera Matthieu par la suite, et qu'il invite à le suivre. Et comme ça s'est déjà passé pour Simon, André, Jacques et Jean, Lévi n'hésite pas un instant et il suit Jésus. Arrêtons-nous quelques instants sur la fonction qu'exerçait Lévi. Le texte nous dit qu'il était à son poste de péage. Péage, donc, il y a quelque chose à payer. Il percevait des taxes ou des impôts. On nous dit que Jésus s'en allait du côté du lac. Donc, on peut penser qu'il croise Lévi à la porte de la ville, puisque c'était souvent là qu'il y avait les postes de péage. Et j'ai lu dans un commentaire que Capernaum se trouvait sur une route commerciale importante entre Damas et l'Égypte. Et donc, à chaque fois qu'on traverse une contrée ou une ville, eh bien, on devait s'acquitter d'un impôt. Lévi serait ce qu'on appelait en France, au début du XXe siècle encore, un agent d'octroi, aujourd'hui on dirait un douanier. Et l'octroi, j'ai retrouvé cette image là, c'était une taxe perçue pour les marchandises qu'on faisait transiter par une ville. En France, il a été supprimé en 1948, donc je ne vous en parle pas en connaissance de cause, hein, même si la barbe est blanche, 48, ça commence à faire un peu beaucoup. Et son montant variait suivant le type et l'origine géographique des marchandises concernées. Les sommes collectées étaient au bénéfice des villes, alors que les impôts étaient, à l'époque, collectés au bénéfice de l'administration romaine. Le texte nous dit aujourd'hui que Lévi a invité de nombreux collègues à un repas aussi. Donc on se dit que c'était peut-être pas un simple collecteur d'impôts, mais peut-être un surintendant, on dirait aujourd'hui, quelqu'un qui avait plusieurs péagers sous ses ordres. Et ce repas, c'est peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui un pot de départ, puisqu'il va suivre Jésus, bon ben, il dit au revoir à tous ses collègues. Ou alors, il a déjà une âme d'évangéliste et il invite les gens pour qu'ils puissent écouter Jésus. Après tout, Jésus a une notoriété maintenant, donc c'est quelqu'un d'intéressant à aller écouter. Si on repense à la fonction de Lévi, qu'il ait collecté des taxes pour la ville ou pour les Romains, c'était mal vu. Et est-ce que ça a vraiment changé aujourd'hui? Je ne sais pas si on faisait un classement des fonctions les plus appréciées de nos contemporains, je ne pense pas trop qu'on trouve le collecteur d'impôts en tête de liste, quoi. Hein? On est content d'avoir des autoroutes, des écoles, des hôpitaux, mais au moment où il faut payer les impôts, c'est quand même toujours un peu délicat. Ben, Lévi, c'est pareil, il ne doit pas être très populaire, et il y a au moins deux raisons pour lesquelles il n'est pas du tout apprécié, c'est que il collaborait avec l'occupant romain, et bon, j'ai pas connu ça non plus, mais mes grands-parents m'ont parlé de ce que c'était que l'occupation. Je veux dire, d'être dans un pays où on n'est plus maître chez soi, où l'occupant peut décider que telle partie de votre maison, il en a besoin, vous interdire des tas de choses, demander des tas de choses, donc c'est pas très agréable l'occupation, je veux dire. Hein. Et quand on traite quelqu'un de collabo, on sait que c'est lourd de poids. Et puis, même s'il n'était pas collabo, un péager, de par sa fonction, il est en contact avec des étrangers qui voyagent et qui payent. Or, les étrangers, c'est des gens impurs. Donc, pour les pharisiens, c'est pas bon. Et puis, deuxième raison, et là, je dis bien qu'il n'y a aucune comparaison avec l'époque actuelle, ils étaient souvent malhonnêtes. Un dicton de l'époque disait « autant de péagers, autant de voleurs ». Je ne dis pas qu'ils l'étaient tous, mais par exemple, que lorsque des collecteurs d'impôts se sont adressés à Jean-Baptiste en leur disant « mais comment est-ce qu'on peut prouver qu'on a vraiment changé, qu'on s'est vraiment converti avec notre langage d'aujourd'hui ?» Jean-Baptiste leur a répondu « n'exigez pas plus que ce qui est légal ». Donc s'il dit ça, c'est probablement qu'il savait qu'il le faisait avant. Et donc Jean-Baptiste montre là que ce n'est pas leur fonction qui les rendait pécheurs, mais que c'était la façon dont ils l'exerçaient. Et puis dans le texte, j'ai noté aussi qu'il est écrit que Jésus mangeait avec des publicains et des pécheurs notoires. Il y avait deux catégories de personnes, donc les publicains n'étaient pas systématiquement assimilés à des pécheurs. Ça fait beaucoup de raisons pour que les pharisiens soient scandalisés de voir Jésus manger avec ces personnes si peu recommandables. Et puis, le repas, c'est symbolique quand même. Le repas, c'est quelque chose qu'on partage, c'est un moment de communion. Comment est-ce qu'on peut être en communion avec des gens comme ça? Puis pour les pharisiens, il y avait des tas de règles à respecter. Et probablement que les gens avec qui Jésus mangeait ne les respectaient pas. Dans Jean 7, verset 48, on peut lire, « Cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Pour les pharisiens, ne pas respecter la loi à la lettre, on est maudit. » Et un petit mot de témoignage personnel, je veux dire, quand on a eu la chance de pouvoir aller en Israël pendant 15 jours, on avait loué un appartement, et quand on est arrivé dans cet appartement, on a dit « Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire pour ne pas choquer ?» quoi. Et l'agent immobilier qui nous présentait l'appartement nous a remercié de nous soucier de ça, et puis il nous a expliqué que Bah, dans les placards, il y avait deux niveaux. En haut, c'était la vaisselle cachère, et en bas, la pas cachère. Donc il nous a demandé de ne pas toucher à la vaisselle du haut. Puis il nous a expliqué que dans l'évier, il y avait deux bacs. À gauche, c'était pour rincer les assiettes et les plats qui avaient contenu de la viande. Puis à droite, pour le reste. Vous savez, c'est ce fameux verset, il ne faut pas cuisiner le veau de la mer dans le lait de la mer. Pardon. Bon, ça va loin. Pas de laitage dans les restaurants, par exemple. Un jour, on mange dans un self, et puis on arrive au moment du dessert, il est tellement chaud qu'on a tous envie d'une glace. Pas de glace. Puis je crois que c'est mon fils qui dit, mais attends, il y en a dans le truc d'à côté, là. Alors on dit, bon, on va manger notre repas, puis on ira acheter les glaces après. C'est ce qu'on fait. On va acheter nos glaces, on revient avec six superbes esquimaux, là. Et on veut entrer dans le restaurant, on dit, non, il y a du lait dans les esquimaux, là. On a mangé nos esquimaux dehors. Et on les a mangés vite, je peux vous dire, parce qu'à 42, ça fondait vite, vous voyez. Toutes ces règles, vous voyez, encore aujourd'hui, elles sont en place. Le mot pharisien, j'ai appris ça très récemment, dérive d'un mot qui signifie séparé. Et en fait, les pharisiens ont voulu se démarquer de l'influence grecque, de la civilisation grecque qui venait en Palestine. Et les premiers pharisiens ont réagi en voulant défendre leur identité et en marquant un plus grand attachement à la loi que ceux qui commençaient à suivre les coutumes grecques. Et puis, comme beaucoup de gens qui résistent, eh bien, ils ont été persécutés. Et ils se sont organisés en un parti de résistants. Mais au cours du temps, ils ont fini par confondre l'obéissance à la loi divine avec un formalisme religieux. Ils ont confondu la disposition du cœur avec l'apparence et la forme. Ils ne se contentaient pas d'expliquer ou d'interpréter la loi, mais ils imposaient tout un tas de règles. Ils ont formulé ce qu'on appelle la tradition. Et on ne pouvait pas y échapper. Les pharisiens du début étaient connus pour leur droiture et leur courage, mais avec le temps, le niveau moral et spirituel de leurs successeurs a baissé, au point que Jean-Baptiste et Jésus les qualifieront de race de vipères et d'hypocrites. En préparant ce message, je me disais, mais quand on parle de saints dans la Bible, qu'est-ce que ça veut dire ? Un des sens de saint, c'est mis à part pour Dieu. Séparé, mis à part, quand même très proche comme sens. Les pharisiens, c'est des séparés, on voit ce qu'ils sont devenus. Ben nous, il ne faudrait pas que les mis à part, on en vienne à apporter plus d'importance à nos habitudes qu'à la parole. David, avec qui j'ai assisté au congrès et qui tenait plusieurs ateliers, nous a rappelé, par exemple, pendant l'un des ateliers, qu'il ne fallait pas confondre ce qui est un principe biblique et ce qui est des prescriptions humaines. Et je pense que tu m'en voudras pas de rapporter une anecdote que tu as déjà citée en public. Quand il est arrivé dans une église, peu de temps après, il a pratiqué un baptême. Et puis, comme on le fait chez nous, la personne s'est assise dans le baptistère, hein, et puis à un moment venu, David a basculé la personne sur le dos, puis je vous rassure, il l'a ressorti de l'eau. Voilà. C'est-à-dire, l'indicateur de David, c'est la couleur du baptisé. Quand il bleuit, là, il est temps de le sortir. Et à la fin du culte, des bons chrétiens sont venus le voir en disant, mais David, tu l'as basculé en arrière. Ben oui. Mais nous, on bascule vers l'avant. Il ne faut pas basculer les gens vers l'arrière, il faut les basculer vers l'avant. Bon. Le principe, c'est le baptême par immersion. Il n'y a pas de prescription vers l'avant, vers l'arrière. Il y a des gens qui baptisent dans les piscines, hein. Les gens sont verticaux, puis on leur appuie sur la tête, à un moment, on les laisse ressortir, donc là, c'est ni l'avant ni l'arrière. Pour moi, je pense que, comme pour beaucoup d'entre vous, ça n'a aucune importance. Tant que les textes, les principes des textes sont respectés, il n'y a pas lieu de s'émouvoir. Dans notre texte, les pharisiens s'offusquent de ce que Jésus mange avec des gens qui ne respectent pas leurs prescriptions. Alors je me suis demandé, mais finalement, quand Jésus mange avec ces publicains, quel est le principe qu'il met en œuvre. Acte 10, verset 34, c'est la vision de Pierre, vous savez, quand il est appelé et qu'il fait plusieurs fois le même rêve où il voit la nappe avec les animaux qu'il considère jusque-là comme impurs. Et Pierre dit, « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. » C'est ça le principe. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Et Jacques reprend cet enseignement de Jésus en disant, « Mes frères, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous faites des différences entre les personnes, vous commettez un péché. Et vous voilà condamné par la loi parce que vous lui désobéissez. » La notion de gens fréquentables ou pas fréquentables, pour Jésus, ça n'a pas de sens. Je me suis aussi souvenu d'avoir croisé en vacances un professeur de sport qui avait demandé sa mutation pour Marseille, et quand il l'a eu, venant du Nord, muté à Marseille, c'était génial. Et puis, il a découvert que dans son service, dans ses obligations de service, eh bien, il avait quelques heures par semaine à la prison des Baumettes. Bon, il n'avait pas le choix, ça faisait partie du service, il est allé. Il était là à Marseille depuis un certain temps. Un jour, il prenait un café en terrasse avec des copains à lui. Et il y a un gars qui s'avance, qui lui serre la main, qui commence à lui poser des questions. « Tiens, comment ça va ?» et tout. Et il voit la tête de ses amis qui change complètement. Et quand le gars s'en va, ils disent « Mais t'as vu qui c'est ce gars-là ? Mais c'est un truand notoire. Tu connais ce type-là ?» Il dit « Ben oui, je l'ai connu à la prison des Baumettes. Il a dû commencer à expliquer pourquoi il allait à la prison des Baumettes. » Enfin, vous voyez, là aussi, quelqu'un d'infréquentable. Alors, imaginez que ça vous arrive, ça. Hein? Quelqu'un de pas fréquentable s'adresse à vous comme ça, et bien, comment vous allez réagir? Imaginez une autre situation. Vous croisez un, deux anciens, un pasteur que vous connaissez bien, et il est à table avec deux travestis. Qu'est-ce que vous allez en déduire? Que ce pasteur a des sympathies pour les travestis? Qu'il est un peu comme eux? Qu'il cache bien son jeu? Enfin, on a des situations aujourd'hui où on peut être mis en contact avec des gens que la morale réprouve, on va dire, je ne sais pas si c'est exactement la bonne formulation. Eh bien, que répond Jésus à l'indignation des pharisiens? Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et vous avez eu, là, j'ai vraiment mis les grands caractères. C'est la pensée forte, à mon avis, du texte de ce matin. Et je ne sais pas quelle est votre réaction quand vous lisez ça, mais quelqu'un qui découvre l'Évangile, qui n'est pas du tout habitué aux propos qu'on tient, il se dit « mais c'est le monde à l'envers ». Les gens bien ne sont pas appelés, et c'est ceux qui mènent une vie de patachon qui sont... Je ne comprends pas, là. Je crois que pour bien comprendre, il faut ajouter quelques guillemets à la phrase. Jésus est venu pour appeler non pas ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. L'Évangile, ce n'est pas réservé aux gens bien, aux gens qui respectent tant bien que mal les règles de la société. Ce n'est pas réservé à ces gens-là. Jésus veut s'adresser aux gens qui se considèrent aussi comme des pécheurs. Je pense qu'on peut lire ces propos, il y a probablement une forme d'ironie là-dedans. Et puis, on entend aussi Jésus qui parle, il répond aux pharisiens, hein, et quand il leur dit, ben, « c'est pas pour vous que je suis venu, hein, puisque vous, vous considérez que vous n'avez pas besoin de changer, c'est pas pour vous que je suis venu. » Dans un passage parallèle, Luc rapporte ainsi les propos de Jésus, « Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer de vie. » Et Jésus dira lui-même, il en est de même au ciel, il y aura plus de joie pour un pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. On doit comprendre 99 justes qui pensent ne pas en avoir besoin. C'est une parole qui me parle parce que je me revois 2-3 ans avant ma conversion, ayant une discussion avec un copain d'armée, en disant, ben, finalement, je ne suis pas pire qu'un autre, moi. Et puis, j'ai rien demandé. Qu'est-ce qu'on nous embête avec tout ça? On peut dire des bêtises, hein, je veux dire, même quand on se croit sensé. Est-ce que ce n'est pas une pensée très répandue que de se dire, mais je ne suis pas pire qu'un autre? J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas trompé ma femme. Pourquoi devrais-je changer? Et vous savez bien, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ce verset, Romains 3, 23, il donne ainsi raison au docteur Knock, hein, dans la pièce de Jules Romain, quand il dit « Tout bien portant est un malade qui s'ignore ». Alors, en termes médicaux, évidemment, c'est pas ça. Mais sur le plan spirituel, oui, toute personne qui se croit bien portante est un malade qui s'ignore. Et pour reprendre une image médicale, il y a des maladies qui évoluent à bas bruit, c'est-à-dire que il n'y a pas de symptômes, on se sent bien. Puis le jour où les premiers symptômes apparaissent, la maladie est déjà bien installée, et quelquefois c'est même trop tard. D'où la nécessité d'un suivi médical régulier pour procéder à un dépistage précoce. Bien, je crois que le péché est une maladie qui évolue à bas bruit chez beaucoup de gens, et puis quelquefois dans des formes beaucoup plus visibles. Et soyons honnêtes, qui prétend être parfait? Je ne sais pas si vous en avez déjà croisé des gens qui prétendent être parfaits, mais déjà s'ils le disaient, je pense qu'ils feraient beaucoup rire, quoi. Personne n'y croirait. Et pourtant, même si nous reconnaissons qu'il y a ces petites choses qui ne vont pas en nous, eh bien on est souvent tenté de continuer comme si de rien n'était, de faire un peu l'autruche. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que dans nos églises, on croise des gens qui ont été délinquants, alcooliques, drogués, violents? En tout cas, moi j'ai eu l'impression d'en croiser plus dans les églises que dans la société. Peut-être que leur conscience, à cause de la gravité de leur faute, peut-être que la société aussi par la morale, les a convaincus qu'il fallait changer. Alfred Kuhn écrit dans un de ses commentaires, « Aujourd'hui encore, l'œuvre d'évangélisation progresse bien plus rapidement parmi les parias de la société actuelle, j'en ai nommé quelques-uns, plutôt que dans les classes moyennes et supérieures où le besoin d'aide et de changement ne se fait pas sentir. » Fin de citation. Bien, je me suis dit qu'il y avait dans notre église quelqu'un qui fréquente des gens qui sont en prison. Et j'ai eu envie de lui donner la parole un petit moment pour voir s'il avait des pensées à partager avec nous. Cette personne, je pense que vous l'avez reconnue, c'est Luc. Est-ce que tu veux t'avancer? Je vais demander d'intervenir au sujet de ce verset 17.
Bonjour tout le monde. Je vais être assez bref. J'aurais bien aimé vous dire que j'ai été appelé à aider les malportants quand j'ai commencé mon ministère en prison. C'est pas le cas. C'est la curiosité qui m'a emmené en prison. Mais on avait dans l'église où on allait avant, on avait un aumônier et j'étais curieux de voir comment ça se passait. Et je l'ai accompagné. Et c'est là que, en fait, je me suis rendu compte du mal-être qu'il y avait derrière. Alors c'est vrai qu'il y a des actes à punir, mais en fait je me suis rendu compte du mal-être qu'il y avait derrière les actes, et qu'on ne pouvait pas juger une personne à ses actes, et qu'il fallait comprendre tout l'arrière-plan derrière. Et ce jour-là, ouais, ça a été vraiment riche, et j'ai vraiment été touché, et je suis tombé un peu amoureux de la prison, de par ce fait que, en fait, j'ai pas rencontré des coupables, j'ai rencontré des personnes avec des parcours de vie compliqués. Et ce jour-là, quand tout le monde est reparti en cellule, chacun est venu me dire au revoir, et dans la poignée de main, il y avait quelque chose que j'avais jamais ressenti avant en serrant la main de quelqu'un, une reconnaissance d'être venu vers eux, et là j'ai compris qu'effectivement, il y avait un ministère à avoir auprès des malportants, et qu'il y avait un besoin, et qui a été transmis par ces poignées de main. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter la prison et que je suis devenu aumônier. Et des gens bien, comme Philippe en parle, j'en ai fréquenté quelques-uns. Ouais. J'ai passé du temps avec des gens qui avaient violé, qui avaient tué, même des jeunes qui ont tué leur mère. Là, en ce moment, je passe du temps avec un jeune qui a séquestré un autre jeune dans un coffre de voiture. Enfin, voilà, on voit des choses horribles. Mais après, quand on prend ce temps avec le prisonnier de comprendre comment il est arrivé là, on a envie de passer plus de temps avec lui, à l'aider, à essayer de comprendre, à échanger. Et en fait, on a des échanges parfois qui sont même très riches, aussi surprenants que ça puisse paraître. Et je voulais juste donner un petit exemple, puis je m'arrêterai là. L'idée, c'est pas que je prenne tout le temps ce matin, mais une fois, j'étais avec un jeune en cellule, et puis il me dit, mais combien t'es payé pour faire ça? Et je lui dis, mais je suis pas payé, je suis bénévole. Et il en revenait pas que je puisse prendre de mon temps pour lui, alors que j'étais pas payé, c'était hors de son concept des choses. Et puis la discussion passe à autre chose. Et puis comme c'est des mineurs, ils n'ont pas le droit de fumer, mais ils essayent toujours de trouver des moyens. Il y a toujours du tabac qui circule d'une façon ou d'une autre. Mais il y a un moment dans la discussion, il m'a dit, mais tu pourrais pas me ramener des cigarettes? Donc je lui ai dit, non, j'ai pas le droit, et toi non plus d'ailleurs. Et il a commencé à bloquer là-dessus et à insister. Et au bout d'un moment, il s'est énervé. Il m'a dit, sors de la cellule, tu n'as rien à m'apporter, tu ne sers à rien. Et là, j'ai regardé, j'ai dit, non, mais tu plaisantes. Il dit, tu es en train de me dire que j'ai rien à t'apporter, alors que je suis en train de te donner mon temps. Et là, d'un coup, toute la colère est partie. Il s'est apaisé, il s'est assis. Il m'a dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Et là, je savais que... Enfin, j'avais gagné avec l'aide de Dieu. Ma présence était vraiment utile. Et quoi qu'il ait fait, et je l'ai même par la suite accompagné au tribunal suite à sa demande. Mais je savais que ma présence avait servi et que j'avais pu lui apporter quelque chose. Et voilà, c'est des petits moments comme ça qui sont encourageants et qui donnent envie de revenir malgré les plus grosses horreurs qu'on peut entendre parfois. Ça donne envie d'y retourner. Ouais.
Merci Luc, j'ajouterai pas de commentaires à ce témoignage très fort. Nous en arrivons à la deuxième partie du texte. Pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent-ils pas ? Les pharisiens, eux, avaient l'habitude de jeûner deux fois par semaine. Or, j'ai trouvé dans le nouveau dictionnaire biblique la mention suivante, « Rien dans la loi de Moïse n'impose vraiment le jeûne ». Après, j'ai trouvé dans d'autres commentaires le fait que l'expression « humilier vos âmes » pouvait peut-être se comprendre comme un appel à jeûner. Mais en tout cas, si c'était le cas, les gens étaient appelés à jeûner une fois par an pour la fête des expiations. Et puis avec le temps, là encore, des habitudes ont été prises de jeûner lors de commémorations d'événements importants, comme le début du siège de Jérusalem, la prise de Jérusalem, la destruction du Temple. Tous ces événements étaient advenus pour punir le péché d'Israël, alors le peuple avait pris l'habitude de s'humilier publiquement en ces occasions. La première fois qu'on mentionne le jeûne au sens de privation de nourriture dans l'Écriture, c'est l'exemple de David après son péché avec Bathsheba. Et en fait, il jeûne pour donner plus de force à sa prière pour que son enfant vive. Et on sait que son enfant ne vivra pas. Le vrai jeûne, c'est une humiliation devant Dieu qui implique qu'on renonce au mal. Or, on le voit dans l'histoire d'Israël, le peuple jeûne, mais continue de pécher. Et c'est un éternel recommencement. Donc, leur jeûne restait sans effet. Les pharisiens s'imposaient des privations que Dieu ne leur demandait pas, encore des règles à suivre. Et là, on sent un peu de perfidie dans leurs questions. Ils essaient de semer la zizanie entre Jean-Baptiste et David en disant « Mais les disciples de Jean-Baptiste, ils jeûnent et les tiens, ils jeûnent pas. Alors, on entend derrière, c'est pas cohérent votre truc, là, vous n'êtes pas d'accord entre vous. » Et puis on se dit qu'il y a peut-être aussi cette pensée que, comme dans l'esprit des Juifs, le jeûne est associé à la prière, on aurait pu s'attendre à ce que les disciples de Jésus donnent l'exemple de la prière. Et là, non, ils font la fête et ils mangent ensemble. Pourquoi ? Et je me dis que les gens qui ont entendu la réponse de Jésus, ils ont dû se demander de quoi il leur parlait. Il leur parle de noces, mais quel rapport avec la question qui est posée ? Il compare sa présence au milieu de ses disciples, ou au moins de ses invités, parce qu'il n'est pas dit que tous les présents au repas sont des disciples. Il compare ça à un temps de fête, un temps de réjouissance, contrairement au jeûne qui est un temps de privation et d'humiliation. Être dans la présence de Jésus, c'est comme être à un repas de noces. Quel contraste avec la tristesse des pharisiens qui feignaient la tristesse lorsqu'ils jeûnaient. Et Jésus d'ailleurs va leur reprocher lorsqu'il leur dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Ce qui devait initialement être un acte d'humiliation finissait par devenir presque un acte d'orgueil. Il paradait presque en disant « Regardez comme moi, je suis un bon juif. » Là encore, quand on était à Jérusalem, on a croisé de temps en temps des juifs orthodoxes. Ça nous paraissait même dangereux. Je veux dire, ils sont dans la ville et ils sont comme ça en train de lire les livres. On a envie de leur dire « Eh mec, il y a des tas de voitures autour, regarde où tu vas, quoi. » Mais non, ils sont comme ça, dans leur tenue traditionnelle, avec leur grand chapeau, là, et tout. C'est quelque chose à voir, quoi. Et Jésus leur dit, ben, peut-être que ce que vous recherchez, vous l'obtenez des hommes. Ils ont une bonne opinion de vous. Mais pour Dieu, c'est sans importance. Et Jésus continue en disant, le temps du jeûne viendra, mais aujourd'hui est un jour de fête. Et parmi toutes les choses que le serviteur peut nous apporter, eh bien aujourd'hui, nous retiendrons qu'il peut nous apporter la joie. Les noces dont parle Jésus, comment ne pas penser aux noces de l'agneau, c'est-à-dire à l'événement qui marquera l'union de Christ et de son Église pour l'éternité. On trouve ça dans Apocalypse 19. Jésus est celui qui nous apporte l'espérance d'une vie éternelle, dans sa présence. Je ne sais pas si j'ai encore, même après 40 ans de vie chrétienne, si j'ai réalisé ce que ça veut dire. Vivre dans la présence de Dieu, 24 heures sur 24. Jésus compare son amour pour l'Église à l'amour conjugal. Et je me suis fait cette réflexion toute simple. Dieu nous aime comme un père. Jésus aime l'Église comme un époux. Je ne sais pas pour vous, mais l'amour paternel, l'amour conjugal, c'est les formes les plus fortes de l'amour. Et puis après l'image des noces, Jésus enchaîne sur deux autres images, alors là qui ont dû les dérouter encore plus. Un vieux tissu, une vieille outre. Qu'est-ce que c'est que ces images ? Alors, rapidement, pour ceux qui n'auraient pas compris, à l'époque, il n'y a pas de pré-traitement des tissus et tout, quand vous achetez un vêtement neuf, eh bien, au premier lavage, il rétrécit. Donc si vous mettez dessus un tissu neuf, la pièce rétrécit et déchire le vieux tissu. Quant aux vieilles outres, ben, les vieilles outres, elles ont déjà subi la fermentation du vin nouveau, donc elles se sont détendues et tout, et elles ont perdu toute leur souplesse. Si vous remettez du vin nouveau dedans, ben, au moment où il fermente, il y a de nouveau une dilatation et là, elles explosent. Et on a tout perdu, l'outre et le vin. Pourquoi ces images ? Bien, dans les deux cas, il est question de choses anciennes et de choses nouvelles. On peut penser que le vieux tissu, c'est le judaïsme, son ensemble de règles, de traditions. Le tissu nouveau, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Il n'est pas possible de rafistoler le vieux système, on dit qu'il n'est pas possible de faire du neuf avec du vieux. Auparavant, le pardon et le salut étaient liés à l'obéissance à la loi, ce que personne, à l'exception de Jésus, n'est parvenu à faire. Jésus, lui, est venu annoncer le salut par grâce et par la foi. C'est un changement tel que Jésus dira à Nicodème, il faut une nouvelle naissance, il faut repartir à zéro. Tu peux naître de nouveau, tout recommencer. On l'a chanté. Le judaïsme est aussi comparé aux vieilles outres, toutes ces règles rigides qu'on ne peut pas bouger. Les pharisiens ne supportaient pas le moindre changement. Alors, accepter le salut par la foi, reconnaître Jésus qui se dit Dieu, c'est impossible pour eux. À chaque fois que quelque chose prouve que Jésus est Dieu, eux, ils considèrent ça comme un blasphème. Sont incapables d'évoluer et de reconnaître le Messie qu'ils attendent. Et cette fois-ci, l'Évangile, c'est le vin nouveau qui fait éclater l'ancien système. Et donc, bah, quand on verse ce vin nouveau dans le système judaïque, eh bien, le message est perdu, le vin est répandu, les gens ne saisissent pas le message. Je me dis qu'il y a un avertissement pour nous qui est de ne pas devenir obtus, de ne pas devenir bornés, de ne pas devenir attachés à nos traditions. Le baptême vers l'avant ou vers l'arrière, bon, on peut peut-être évoluer. Veillons à ne pas perdre notre souplesse et à rester capables d'évoluer sur la forme, tout en restant fidèles sur le fond et sur les principes. Alors je conclurai très brièvement en disant pour moi il y a deux idées fortes à retenir dans le texte de ce matin. La première c'est que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne favorise personne, il ne méprise personne. Rappelez-vous, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et puis la deuxième idée, c'est que vivre en présence de Jésus, c'est vivre dans la joie. Et c'est à cela que nous sommes appelés pour l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, je te rends la parole, Dino.